Les séminaires du Collège de France.
Merci beaucoup, professeur Grison, de m'avoir invité au Collège de France. Je suis très honoré d'intervenir devant vous. J'interviendrai sans présentation particulière. Je préfère vous parler sans forcément un support visuel, mais je serai le plus pédagogique possible. Et nous sommes rentrés dans la question des métaux stratégiques, critiques, rares, moins rares. On va redéfinir tous ces termes-là. Sous un angle très, très spécifique, expliqué de manière très pédagogique, mais à la fois très spécifique, puisqu'on a parlé d'un métal, le palladium, qui est en fait un sous-métal, un sous-produit de l'industrie minière, c'est ce que vous avez expliqué, pour des applications très spécifiques, la catalyse automobile, la catalyse industrielle en particulier, avec des problématiques particulières à ce métal, des solutions pour répondre aux défis que génère la manipulation et l'industrialisation de ce palladium, mais vous allez voir que ces problématiques finalement sont universelles. Elles sont universelles à tous les métaux en général, puisque finalement l'extraction, la transformation, l'industrialisation d'un métal obéit toujours à des procédés qui vont être chronophages, énergivores, ça dépend des matériaux, avec des problématiques environnementales, économiques et de souveraineté associées. Ce qui est intéressant, c'est que donc, le sujet du palladium, comme je le dis, peut être étendu aux 80 et quelques métaux que l'on trouve dans la table de Mendeleïev. Et plus précisément, un certain nombre de matériaux, j'en dénombrerai environ une cinquantaine, dont on parle particulièrement en ce moment, qu'on appelle les matériaux critiques. En fait, nous vivons, comme vous le savez, une accélération de la transition énergétique. Transition évidemment indispensable pour se sevrer des ressources fossiles. Il faut basculer le plus rapidement possible d'un monde émetteur de carbone, avec des industries, des modes de consommation émetteurs de carbone, vers des technologies qui n'en émettent pas. La voiture à essence doit être, donc la voiture thermique doit être remplacée par une voiture électrique, et les centrales à charbon et autres centrales à gaz qui émettent du carbone pour produire de l'électricité doivent être remplacées à terme par des centrales solaires ou bien des fermes éoliennes, qu'elles soient sur la terre ferme ou offshore, au large. D'une façon générale, c'est la condition sine qua non pour pouvoir évidemment tenir, réduire au maximum le réchauffement climatique. Cette transition énergétique ne peut se réaliser sans une transition numérique. En fait, la transition énergétique a cette spécificité que les sources d'énergie à l'entrée du réseau électrique sont des sources d'énergie intermittentes. Je ne vous apprendrai rien, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'aujourd'hui, il est plus difficile de produire de l'énergie solaire qu'hier, quand le ciel était plus dégagé qu'il ne l'est aujourd'hui. De la même façon, les jours de grand vent, on produit plus d'électricité issue des fermes éoliennes que les jours où il n'y a pas de vent. Et donc cette intermittence, qui est consubstantielle aux énergies électriques intermittentes, enfin aux énergies dites vertes, elle doit être contrebalancée par le pilotage informatique des réseaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, ou très mal, stocker à grande échelle de l'électricité. Or, la demande en électricité, à l'autre bout du réseau, est une donnée X qui évolue effectivement en fonction de nos besoins et du moment de la journée. Pour se faire se rencontrer en temps réel, l'offre d'énergie de plus en plus intermittente, l'offre d'électricité, et la demande en électricité qui, de l'autre côté du réseau, à la fin du réseau, au bout de réseau, est toujours plus diversifié. La trottinette, la tablette, l'ordinateur qui va interroger ChatGPT, je ne sais quoi. Eh bien, en fait, la rencontre en temps réel de ces deux, de cette offre et de cette demande est facilitée et davantage permise par le recours à l'intelligence artificielle et au pilotage informatique des réseaux. Donc, en fait, la transition énergétique a besoin de la transition numérique pour être rendue plus efficiente. Inversement, la transition numérique est consommatrice de ressources, d'énergie. Elle émet de plus en plus de carbone, notamment les fameux data centers qui tournent en permanence pour pouvoir entraîner les IA génératives. Et donc, centres de données ont besoin de plus en plus d'énergie dite verte pour pouvoir ne pas émettre de CO2. Donc en fait, nous avons deux familles de technologies, l'IA d'un côté, le numérique en général, mais aujourd'hui on emploie de plus en plus le mot IA, et la transition verte qui s'accompagnent, qui ont besoin l'une de l'autre. Et ces deux familles de technologies sont consommatrices des mêmes ressources. Donc si on regarde plus précisément des mêmes ressources métalliques. Si on regarde la composition d'une voiture électrique, on va noter d'abord qu'il y a des tas de matières premières dans la voiture électrique qui sont les mêmes que dans la voiture électrique, dans la voiture thermique. On va retrouver par exemple de l'aluminium pour les jantes, on va retrouver du magnésium pour un certain nombre de composants de la voiture thermique et électrique. Par exemple, ça va permettre de fabriquer des sièges qui vont être plus légers, par exemple. Donc ça peut être intéressant parce que l'objectif dans la voiture, c'est toujours de la rendre plus légère, certes sécurisée, solide, mais en même temps légère, pour qu'elle consomme le moins d'énergie possible. Et puis, en même temps, on va trouver dans la voiture électrique des matériaux qui sont très spécifiques à la voiture électrique. La batterie, qui sert à stocker l'électricité, est faite dans la chimie majoritaire de nickel, c'est la chimie nickel-manganèse-cobalt, et donc on va retrouver dans ces batteries du lithium, du cobalt, du nickel, du manganèse, du cuivre, du graphite, un minerai très important qu'on appelle le graphite, qu'on trouve également d'ailleurs, qui est principalement extrait en Chine. Et puis après, le moteur de la plupart des voitures va être un moteur fabriqué à base d'un aimant permanent. Donc en fait, un aimant permanent émet un champ magnétique qui rencontre un autre champ magnétique qui est celui d'un rotor en cuivre. Et en fait, je sais qu'il y a des tas de scientifiques dans la pièce, donc j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais lorsque le champ d'un rotor rencontre le champ d'un stator qui est fait à base d'aimant, et bien en fait ça crée du mouvement. Et donc en fait ce mouvement permet de se faire mouvoir un véhicule électrique. Et ces aimants sont aujourd'hui dans leur grande majorité produits, en particulier pour les voitures électriques, à base de terres rares, qui est une famille de métaux, notamment le néodyme, le dysprosium, le praséodyme, le samarium, toutes ces terres rares, donc qui font partie de la famille des terres rares, tous ces matériaux qui font partie de la famille des terres rares, permettent de fabriquer des aimants qui ont des propriétés particulièrement intéressantes en termes de champ magnétique, mais également de volume très restreint et de résistance à des fortes chaleurs. Globalement, si je regarde une éolienne, vous allez me considérer, vous êtes d'accord avec moi, ce sont des monstres de métal. Alors l'éolienne, c'est d'abord évidemment de l'acier, mais vous allez trouver dans le rotor des éoliennes offshore, eh bien justement ces mêmes aimants en beaucoup plus gros, faits à base de terres rares. Les panneaux solaires nécessitent du silicium métal, c'est pas rare, mais il faut transformer le silicium en métal, c'est un procédé qui est complexe, qui est également un procédé maîtrisé par la Chine, et puis on va retrouver de l'indium, de l'argent dans les panneaux solaires. Tout cela, l'électricité produite par les panneaux solaires, les éoliennes, qui va se diriger vers la borne de recharge à laquelle je vais brancher ma voiture, tout cela transite via un réseau électrique qui est fait de cuivre. Et en fait, le cuivre, c'est le grand métal de la transition énergétique. C'est l'un des métaux les plus nécessaires, puisqu'il est conducteur, il est très conducteur d'électricité. Et donc, il faut des quantités colossales de cuivre pour pouvoir faire transiter cette électricité-là. Et toutes ces technologies fonctionnent grâce à des technologies numériques. Elles sont rendues plus efficientes par les technologies numériques. Et si vous regardez, si vous avez un jour l'idée d'ouvrir votre téléphone portable, vous allez voir à l'intérieur de votre téléphone portable jusqu'à 70 matières premières, une majorité de métaux. Et là, vous allez retrouver dans la batterie du téléphone portable les mêmes métaux que dans la batterie de la voiture électrique. Vous allez retrouver également des terres rares, notamment les microphones de votre téléphone portable. Dans la puce électronique, qui est en fait le cerveau de votre téléphone portable, vous avez toutes sortes de matériaux. Vous avez 50 matériaux dans la puce électronique, même si ça paraît tout petit. En fait, il y a beaucoup de matériaux qui se trouvent à l'intérieur, notamment du silicium, notamment de l'étain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces métaux sont soit abondants, le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb sont des métaux dits abondants. On en extrait des milliards de tonnes, à tout le moins des dizaines de millions de tonnes par an. Le cuivre, c'est environ 25 millions de tonnes par an. Et puis, il y a des matériaux qu'on utilise dans des proportions bien moindres. On les appelle souvent des métaux de spécialité, parce que leurs applications sont très spécifiques. On les appelle des petits métaux. On les appelle des métaux mineurs, minor metals en anglais. Et puis on les appelle souvent aussi des métaux rares, rare metals. C'est d'ailleurs la terminologie officielle des Japonais qui considèrent leurs métaux stratégiques comme pour partie des métaux rares, dit rares parce qu'ils sont moins abondants que les métaux abondants. C'est-à-dire que lorsque vous allez trouver dans une mine de cuivre ou de fer, où vous avez précisé de cuivre et de nickel, le cuivre étant un métal abondant, vous allez trouver dans une mine beaucoup moins de palladium, qui est un sous-métal du cuivre. On l'appelle donc métal rare parce qu'il est plus rare qu'un métal abondant. Dans une mine de fer, vous allez trouver du fer, évidemment, et vous allez trouver des sous-produits du fer, et notamment des terres rares, et notamment du néodyme, qui est un métal qui permet de fabriquer les aimants que l'on trouve dans les moteurs des voitures électriques. Et En moyenne, évidemment, ça va dépendre des gisements, mais vous allez trouver environ 1200 fois moins en concentration de néodyme dans une mine de fer que le fer lui-même. Ça nous renvoie un petit peu à la visualisation que vous proposiez, Madame Grison, de montrer que finalement, toutes choses égales par ailleurs, toutes proportions gardées, on va trouver 1000, 2000, 3000 fois moindre de métaux rares dans l'écorce terrestre par rapport aux métaux abondants. Ces métaux, globalement, leur situation géographique, leur géologie, on peut la considérer, mais je parle de façon très, très vaste, n'est-ce pas ? Je vous donne une réalité à gros traits. On peut considérer qu'ils sont relativement bien répartis dans l'écorce terrestre. Il y a bien sûr des exceptions. On a parlé du palladium. On peut également parler des platinoïdes qui sont très concentrés en Afrique du Sud, dont d'ailleurs le palladium fait partie. Et là, on va trouver vraiment des gisements de platinoïdes, mais vraiment, géologiquement, on sait que c'est là que ça se passe et pas forcément ailleurs sur Terre. On va retrouver également cette même problématique à propos du cobalt, qu'on va souvent retrouver dans des gisements très particuliers sur Terre, notamment la RDC. Pour autant, et puis après vous avez des pays qui effectivement concentrent des gisements colossaux de certains matériaux comme les terres rares par exemple. On sait que les ressources par exemple de terres rares sont beaucoup concentrées en Chine, on les trouve beaucoup au Groenland, ce qui explique plein de choses. On les trouve beaucoup au Brésil. Les Brésiliens, en ce moment, investissent énormément et croient énormément à l'accélération du secteur minier pour l'exploitation des terres rares, dont d'ailleurs les Français, dans lesquels les Français vont se servir. Il y a des partenariats industriels intéressants entre des extracteurs de terres rares au Brésil et des transformateurs de terres rares en France, et qui vont bientôt se mettre à travailler opérationnellement ensemble pour que nous puissions avoir des terres rares en France. Mais ça commencerait du Brésil. Mais globalement, c'est on les trouve partout sur Terre, en fait. Et si je projetais une carte de l'ensemble des matériaux dont on a besoin au quotidien, eh bien, on constaterait qu'il y a des centaines, voire des milliers, pour certains d'entre eux, de gisements parfaitement identifiés, pas forcément exploités, mais qui sont identifiés. Et je ne vous parle même pas de ce qu'on pourrait trouver au fond des océans, puisqu'on parle de plus en plus d'aller extraire ces matériaux dans des nodules polymétalliques, des petites concrétions rocheuses qu'on trouve dans des grandes plaines abyssales au large du Mexique, dans une vaste zone qu'on appelle la zone de Clarion-Clipperton, qui est un morceau d'océan qui fait 9 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire deux fois la taille de l'Europe. Et au fond, à 5 mètres de profondeur, c'est plat, et on trouve ces petites boules posés au fond des océans et qui sont très, très riches en métaux tels que par exemple le nickel. Et donc en fait, et puis je ne vous parle même pas de ce qu'on trouverait sur les astéroïdes, etc., etc. Tout ça évidemment c'est un potentiel, ce n'est pas une réalité matériellement extractible, il n'y a pas de modèle économique pour aller extraire ces matériaux dans les océans et sur les astéroïdes, mais c'est dire que en fait on trouve ces matériaux partout. Il se passe qu'en revanche, extraire ces matériaux, ça vient à un coût écologique, qui a été évoqué par Mme Grison. Alors, quelquefois, quand je parle de ces coûts écologiques, je me rends compte moi-même que je suis particulièrement dur et que je mets des mots sur l'extraction qui sont particulièrement... sur les coûts écologiques de l'extraction du raffinage qui sont particulièrement des mots qui peuvent être perçus comme étant un peu affolants. Et je me rends compte que j'étais moins affolant que professeur Grison une heure avant moi, parce qu'effectivement, j'ai pu me rendre en tant que journaliste à de nombreuses reprises dans les mines d'extraction, dans des mines de métaux stratégiques, notamment en Chine, pour constater que quand on parle d'extraction, les enjeux environnementaux sont absolument colossaux, et quand on parle de raffinage, les enjeux environnementaux également sont colossaux. Donc déjà, il faut extraire la ressource du sol, et puis il faut ensuite effectivement produire un métal pur à 99,9999% et extraire ces terres rares de mines de fer en Chine et puis les produire, produire des terres rares complètement pures ou quasi pures, ça passe par un phénomène, des process d'hydrométallurgie. Donc on va utiliser des solvants, on va avoir recours à énormément d'eau pour pouvoir répéter, mais des centaines de fois, en fait, la même opération qui consiste progressivement à séparer la roche du métal, les métaux entre eux, et puis arriver à cette terre rare pure. Et l'eau, en bout de processus, est bien chargée en métaux lourds, en produits toxiques, et directement rejetée dans les écosystèmes, dans un lac de rejet toxique qu'on appelle le Huekuang Dam, là-bas, sans aucune espèce de processus de traitement des eaux, de quelque manière que ce soit. Vous avez autour de ce Huekuang Dam, qui se trouve en fait en Mongolie intérieure, près de la ville de Baotou, à 800 km au nord-est de Pékin, vous avez des gens qui vivent dans des villages qui ont été d'ailleurs repoussés, enfin les villages ont été déplacés pour en fait faire de la place à Baogang, qui est le géant métallurgique, minier métallurgique chinois, pour qu'il puisse étendre ses activités. Et donc les villages qui, en fait, ça s'amoncellent autour de ces zones industrielles. Les gens, quand on va les voir, et je les ai vus, et j'ai parlé avec eux, je les ai filmés, je les ai interrogés, nous disent, bah oui, effectivement, on vit dans un village du cancer. Alors, moi, j'ai pas de statistiques INSEE chinoises à vous proposer à l'instant où je vous parle, d'accord ? D'abord parce qu'il n'y en a pas, et que si elles existaient, elles ne seraient probablement pas publiques. Donc je suis obligé de me référer à cet témoignage subjectif qui est celui de ces gens, de ces Chinois qui parlent, et qui disent, oui, effectivement, on vit dans un village du cancer, parce qu'on trouve qu'il y a un nombre de cancers qui est particulièrement élevé dans notre village par rapport à ce que l'on voit d'habitude. Et je parle souvent à des gens qui sont peu éduqués, donc c'est un ressenti de leur part, mais il faut savoir les écouter. Et puis quelquefois des gens qui disent, vous avez des très beaux objets dans votre quotidien, des beaux téléphones, mais pour avoir ces beaux objets, il faut ce que vous voyez chez nous. Et une femme comme ça qui dans un immeuble préfabriqué dans lequel a été relogée parce que son village est un village du cancer, eh bien elle a vu sur la mer, elle dit, j'ai vu sur la mer. Et la mer, en fait, c'est cet étang, ce lac artificiel, le Huekwangdam, qui en fait occupe tout son champ de vision. C'est un vaste étang dont je ne saurais dire là, qui fait plusieurs kilomètres carrés de superficie. Et elle dit, moi j'ai vu sur la mer, et puis en bout de course, eh bien, ce sont des utilisateurs qui bénéficient évidemment de toutes les merveilles des technologies numériques, mais également des technologies vertes. Et on voit le hiatus évident entre le problème qui est réglé en électrifiant les centres-villes et les nouveaux problèmes qui sont créés ailleurs sur Terre. C'est exactement ce que vous disiez. On a réglé un problème en créant finalement un autre. Et parce que nous, Occidentaux, et notamment Européens, ne voulions pas cette pollution associée à ces matières premières, ce choix industriel, mais qui est un choix collectif, un choix de société, remonte à peu près aux années 80. Et bien parce que nous ne voulions pas de ces matériaux, on a laissé d'autres le faire à notre place. Mais il faut savoir que la France est un pays qui, dans son sous-sol, détient toutes sortes de ressources. On a déjà d'ailleurs extrait du tungstène, notamment dans le sud de la France, dans l'Ariège. On pourrait tout à fait réouvrir une mine de tungstène à Salo, dans l'Ariège. On a été, en entre-deux-guerres, un producteur mondial, de classe mondiale, sinon même le premier producteur mondial, nous les Français, d'antimoine, qui est un matériau extrêmement indispensable, notamment pour les technologies de défense aujourd'hui. On trouve évidemment de l'or en France, on trouve plein de lithium partout, il en est question, on va pouvoir peut-être en reparler. On en trouve en Bretagne, on en trouve dans l'Allier, on en trouve en Alsace, sans parler évidemment du charbon, c'est un autre sujet, mais en fait, on a cette ressource et on pourrait davantage l'exploiter qu'on ne le fait. Et puis, ça, c'est la partie exploitation, au sens de l'extraction, mais une fois qu'on l'a extrait, on va le raffiner. Et la France a été également, dans les années 80, un leader du raffinage de certains matériaux, et notamment des terres rares. Donc nous n'extrayons pas à l'époque les terres rares, c'était les Australiens qui les extrayaient, mais nous raffinions les terres rares parce que Rhône Poulenc, aujourd'hui Solvay, eh bien, à La Rochelle, détenait un vrai savoir-faire dans le raffinage des terres rares. Simplement, ce procédé était très polluant. Et en fait, parce qu'il y avait des tensions sociales très fortes à l'époque à La Rochelle, on était dans les années à ce moment-là 80-90, Solvay, Rhône Poulenc était devenu Rhodia, et parce que, en fait, eh bien, il y avait des rejets malheureux d'eau chargée en produits toxiques et en polluant directement en fait dans la baie de La Rochelle, eh bien en fait le maire de l'époque qui était Michel Crépeau, un maire je crois socialiste ou écologique, quelqu'un
radical de gauche.
Michel Crépeau, sous la pression de ses administrés, c'est-à-dire les électeurs, les électrices, décide de, en fait, eh bien, pousse en fait, enfin, enjoint Rhodia alors à réduire ses activités de raffinage de terres rares, qui ne vont pas complètement fermer, qui vont en fait continuer à tourner, mais de manière ralentie. La partie la plus sale du processus, qui consistait en fait à séparer le thorium de l'humarium et les terres rares, un procédé qui générait des émissions, enfin de la radioactivité, eh bien en fait elle est délocalisée en Chine. Donc en fait, il y a eu un choix collectif qui a été fait dans ces années-là, mais pas qu'en France, dans l'ensemble de l'Europe, dans l'ensemble des pays occidentaux, en Australie qui va fermer ses mines de terres rares, aux États-Unis qui va fermer ses mines de terres rares, eh bien en fait de délocaliser les mines, de délocaliser les usines et de délocaliser la pollution. On a délocalisé la pollution et on a laissé d'autres pays, qui à l'époque étaient des pays qui étaient en retard sur le plan économique par rapport à nous, la Chine des années 80, c'est une Chine qui n'a rien à voir évidemment, vous vous en doutez bien, avec la Chine d'aujourd'hui, c'était une Chine qui était assoiffée de rattrapage sur l'histoire et de rattrapage économique, et qui finalement va nous voir en nous disant « vous voulez être propre et nous on a besoin de croître ». L'accord était tout trouvé. C'était un accord non pas formalisé par un traité, mais ça a été un accord qui, finalement, a consisté eh bien, à laisser certains assumer un impact écologique, un coût écologique, mais également un coût sanitaire, un coût social, cependant que nous pourrions, nous, eh bien, nous targuer eh bien, d'être davantage responsables sur le plan environnemental. Le monde s'est organisé entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres. Mais ça convenait à tout le monde. C'était la mondialisation heureuse. Le minerai était produit pas cher, et nous, nous l'achetions pas cher pour en conserver la valeur ajoutée, le mettre dans des beaux produits de haute technologie, et nous étions certains d'avoir 25 ans d'avance sur les Chinois. Comme vous le savez, cette vision du monde ne tient plus. D'abord parce que les Chinois nous ont rattrapés entre-temps, ils ont été capables de descendre la vanne de la chaîne de valeur, c'est-à-dire ils ont commencé par extraire les terres rares, puis après ils ont réussi à trouver la façon de le raffiner, et puis progressivement ils ont descendu les chaînes, les étapes de la chaîne de valeur en fabriquant eux-mêmes les aimants, qui sont en fait des petits composants de haute technologie extrêmement stratégiques que l'on retrouve absolument partout dans nos objets du quotidien. Ils vont faire ça avec tout. Ils vont faire ça avec la batterie, la voiture électrique. Ils vont soit extraire, soit aller chercher chez les autres le minerai pour le raffiner chez eux, fabriquer les anodes et les cathodes, et puis finalement fabriquer 75% aujourd'hui des batteries de voitures électriques et 50% des véhicules électriques dans le monde. Donc en fait, cette illusion d'une avance que nous pourrions conserver, cependant que l'empire du milieu resterait l'empire des jeans et des jouets, a tenu 20 ans, 25 ans. Nous avons été extrêmement prétentieux. Nous avons été extrêmement hautains à l'endroit des Chinois, qui, pendant ce temps-là, ont beaucoup travaillé et n'ont rien dit. La devise de Deng Xiaoping à l'époque était... il avait une devise dont le verbatim m'échappe, mais qui consistait à dire « faisons profil bas ». Et en fait, on n'a pas vu cette montée en puissance chinoise qui, en fait, était une montée en puissance qui répondait à une logique, à une démarche d'intégration de la chaîne de valeur, de l'ensemble de la chaîne de valeur. Il fallait tenir les deux bouts de la chaîne de valeur, la mine et le laboratoire, et toutes les étapes intermédiaires. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en allant chercher notre savoir-faire, en le rachetant, en nous copiant, en redéveloppant leur propre savoir-faire sur notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils ont, réinnové sur nos innovations, pardon. Ça s'appelle l'innovation d'abord exogène, puis l'innovation endogène, pour finir par être capable même de nous devancer sur les technologies. Et aujourd'hui, on a des grands fabricants de batteries de voitures électriques, je pense en particulier à Amperex, qui sont les géants de la fabrication des batteries de voitures électriques, qui nous font la morale et qui nous disent « vous ne savez pas fabriquer des batteries de voitures électriques, on va vous apprendre ». Et on en est en Europe à négocier avec eux aujourd'hui l'échange de leur savoir-faire contre le fait qu'ils viennent s'installer chez nous. C'est-à-dire qu'on joue à front renversé aujourd'hui par rapport à il y a encore 10 ou 15 ans. Donc on n'a pas vu cette évolution-là et on a été aussi rassurés en laissant partir l'extraction de ces matériaux au bout du monde, notamment en Chine, par trois lettres magiques qui s'appelaient l'OMC et par trois autres lettres magiques qui s'appelaient l'ORD, l'organisme de règlement des différends de l'OMC. Ça voulait dire concrètement que la Chine était obligée, en vertu des règles de l'OMC, organisation à laquelle elle avait évidemment adhérer, de nous fournir ces matériaux. Nous étions sûrs d'avoir ces matériaux. Il faudrait peut-être en mettre le prix éventuellement en fonction de l'équilibre de l'offre et de la demande. Mais le parapluie de l'OMC garantissait un accès sans entrave qui était évidemment permis par cette organisation et par une philosophie sous-jacente qu'on appelle la main invisible des marchés, par cette vision du monde en vertu de laquelle le commerce international devait faire son œuvre et qu'il n'y avait pas d'enjeux géopolitiques qui viendraient potentiellement interférer dans la diffusion des matières premières et des composants à travers le monde. Et cette autre pensée magique qui a été cohérente avec, pendant un temps, enfin, qui a vécu avec son temps durant les 30 dernières années, n'est plus davantage valable dans le monde d'aujourd'hui. Dès le début des années 2000, en fait, la Chine va commencer à serrer le robinet de l'exportation des matières premières. Et elle va notamment, en 2010, il va y avoir une grande crise qui va en fait agir un petit peu comme un coup de semonce pour les Européens notamment, mais aussi pour les Japonais et les Américains. C'est lorsqu'en 2010, la Chine en fait coupe ses exportations de terres rares pendant 6 mois à destination de l'Occident, en fait à destination des Américains et des Japonais. Le fond de l'histoire, c'est qu'en fait, la Chine se dispute avec le Japon quelques îlots épars en mer de Chine méridionale, gorgés de gaz et de pétrole dans leurs fonds marins. Et en signe de mécontentement diplomatique, eh bien, en fait, embargo sur les terres rares pendant 6 mois. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais de quoi parle-t-on, en fait? Les industriels n'étaient pas forcément même véritablement au courant de l'existence de ces matériaux. En Europe, quand vous êtes un assembleur de voitures, vous n'achetez pas des terres rares. Vous achetez des aimants de terres rares et vous assemblez tout cela dans une voiture. Vous êtes un assembleur et un concepteur. Mais vous avez laissé tomber depuis très longtemps l'aval de la chaîne de valeur. C'est votre N+7, votre N-7 qui s'occupe de la mine et votre N-6 qui s'occupe de la séparation des terres rares. Et puis vous avez parmi les intermédiaires eh bien, des logisticiens, des transformateurs, des fabricants d'aimants, des fabricants de composants. Donc en fait, tous ces gens-là ne savaient pas forcément, à l'époque, on était en 2010, les industriels ne savaient même pas forcément ce qu'étaient les terres rares et à quoi ça servait. Ils ne savaient pas qu'ils en consommaient. Et tout d'un coup, en fait, ça va être néanmoins un réveil très fort au niveau de l'Union européenne. À l'époque, c'est Jean-Louis Borloo qui est, je me rappelle, ministre de l'Environnement, et c'est Jean-Louis Borloo qui pousse beaucoup à ce que l'Union européenne eh bien, édite une première liste de métaux critiques. Et donc cette première liste va être produite en 2011, et elle va être remise à jour tous les 3 ans, et donc elle va être mise à jour cette année, et à ce jour, et c'est la nomenclature, enfin c'est la liste de métaux critiques de 2023, nous sommes à 34 métaux critiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ces métaux critiques? Eh bien, ça veut dire en fait que l'Europe se met à lister les matériaux qui sont stratégiques pour ses industries, automobiles, électroniques, défense, parce que si on veut être cohérent et en tout cas peser face à M. Poutine et face à M. Trump, il faut des armements. Et ces armements, le F-35, un missile de haute précision, sont faits avec des matières premières métalliques et notamment des terres rares. On retrouve les terres rares dans le système de guidage des missiles. Il y a beaucoup de terres rares qui tombent en ce moment en Iran. Très concrètement. Et les F-35, ou le Rafale, pardon, j'aurais dû parler du Rafale, sont des bijoux de technologie, mais ce sont des concentrés de métaux et d'alliages extrêmement pointus, notamment du titane. Or, le titane vient de Russie, un vrai sujet pour l'Europe que de s'approvisionner auprès de la Russie, qui n'a pas fermé le robinet du titane, mais qui laisse planer le doute et qui laisse planer en fait la menace de couper ses approvisionnements de titane. Si les Russes coupent leurs approvisionnements de titane, c'est un vrai problème pour nous les Européens. Pour le moment, c'est un peu l'équipe de la terreur entre les Russes et les Européens, parce que nous, du coup, en leur achetant leur titane, eh ben, en fait, on finance l'effort de guerre russe. Ce qui est reproché à Airbus dans une investigation qui a fait grand bruit et qui a été publiée il y a un an ou deux par un média français qui a dit « Mais finalement, vous, Airbus, vous avez acheté des centaines de millions d'euros de titane aux Russes, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas se passer des Russes. » Donc, excusez-moi. Donc ces matériaux servent également pour l'industrie de défense. Et donc en fait, ce sont des matériaux stratégiques et ce sont des matériaux qui, en vertu de cette logique de spécialisation minière, c'est-à-dire qu'on pourrait les produire ailleurs, mais on a décidé de laisser être produits, extraits, raffinés dans certains pays, et qui, en vertu d'une logique de spécialisation minière et métallurgique, eh bien en fait, vont venir des leaders de certains matériaux, eh bien en fait, tout d'un coup, on se rend compte que si on veut acheter certains matériaux, on doit se tourner vers un pays, peut-être deux pays. Et puis au sein d'un pays, peut-être vers 2 ou 3 sociétés minières, mais qui elles-mêmes en fait envoient leurs matériaux à 2 sociétés de raffinage, qui elles-mêmes envoient leurs matériaux à 4 sociétés de fabrication d'aimants permanents. Mais donc il y a des goulots d'étranglement qui viennent se resserrent ou s'élargissent à différentes étapes de la chaîne de valeur. Et en fait, tout ça fait prendre la mesure de notre dépendance à certains pays, certaines entreprises dont les intérêts ne coïncident pas forcément avec ceux des pays occidentaux. Et d'où vit, et c'est de là que vient le terme de criticité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des matériaux stratégiques produits ailleurs par une poignée de pays. Et si jamais un événement faisait que la production de ce matériau ou l'exportation de ce matériau cesse, eh bien, il n'y a pas de plan B. Et on voit un hiatus très fort. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de plan B, c'est très concret. Il n'y a pas de plan B parce qu'en fait, ouvrir une mine dans le monde, ça prend en moyenne, c'est un chiffre de l'Agence internationale de l'énergie, 16 ans et demi. Entre le moment où je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose sous le Collège de France, et le moment où je vais commencer à extraire sur quelque chose, à supposer que j'ai l'accord de la mairie de Paris pour cela, il va se passer 16 ans et demi. D'accord ? Donc en fait, quand je dis qu'il n'y a pas de plan B, c'est très concret. C'est-à-dire que si la Chine, le 1er avril, dit j'arrête d'exporter des aimants de terre rare, ce qu'elle menace de faire, en fait, je ne peux pas le 2 avril me tourner, enfin je peux me tourner vers quelques producteurs alternatifs, mais peu de producteurs alternatifs. Donc en fait, et je ne vais pas forcément pouvoir substituer facilement. Je ne vais pas pouvoir dire, bah, tiens, je vais remplacer mes terres rares par quelque chose. On ne sait pas remplacer les aimants de terre rare par d'autres aimants qui soient aussi efficients que les aimants de terre rare. On peut les remplacer par des aimants de ferrite, mais on va se retrouver avec des gros aimants qui ne rentrent pas dans votre moteur de voiture. Donc en fait, on ne peut pas les remplacer. Et donc il y a un problème de substitution, on ne peut pas tout substituer. Et a fortiori, il y a beaucoup de choses qu'on peut ne... Enfin, il y a plus de choses qu'on peut ne pas substituer que de choses que l'on peut substituer, des métaux. Et puis, on va dire, on va recycler. Mais recycler, ce n'est pas forcément très simple non plus de recycler. Recycler, ça coûte cher. Et comme l'a dit le professeur Grison, quelquefois, recycler... Le matériau recyclé est plus cher que le matériau issu de la mine. Et parce que nous avons tous été à la recherche du moindre coût, et parce qu'il fallait faire le plus de marge possible, et parce qu'on voyait assez peu à moyen terme ou à long terme, eh bien en fait on a favorisé pendant des décennies des process industriels qui en fait ne facilitaient en rien le recyclage. On n'a même pas essayé de éco-concevoir nos technologies. On n'a pas éco-conçu les catalyseurs. On n'a pas éco-conçu les catalyseurs, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit comment est-ce que je pense mon catalyseur aujourd'hui, à commencer par un dessin, hein, au crayon à papier sur une feuille, pour que dans 15 ans, un recycleur ait du boulot. Mais l'éco-concepteur n'a jamais parlé au recycleur. Ces gens-là ne se connaissent pas. Ils ne sont pas dans le même annuaire. Ils ne parlent pas la même langue. Donc en fait, on n'a pas pensé l'économie circulaire de façon intégrée. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à comment les gens, le long de la boucle d'économie circulaire, sur la boucle d'économie circulaire, depuis l'éco-concepteur jusqu'au recycleur, en passant par le collecteur, le transformateur, le réparateur, le consultant qui réfléchirait aux nouveaux modèles économiques du recyclage, tous ces gens-là ne se sont pas parlé, et donc du coup, c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on met sur pied une industrie du recyclage, et qui plus est, de manière plus holistique, une économie fondée sur les nouveaux modèles économiques de l'économie circulaire pour pouvoir échapper à l'emprise chinoise sur ces matériaux-là. Donc en fait, la criticité, elle naît du fait que nous nous sommes totalement jetés dans la gueule du loup. Nous avons, excusez-moi de le dire, mais mis complètement la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a vu un monde bas carbone, on a vu un monde dématérialisé, mais ces mondes bas carbone et ces mondes dématérialisés qu'on a annoncés à grand renfort de grandes conférences, de COP, tout à fait légitimes et nécessaires, n'est-ce pas ? Mais ces mondes-là sont des mondes haute matière. Ce sont des mondes bas carbone et dématérialisés, mais ce sont des mondes haute matière. Il faut plus, et aux métaux, il faut plus de métaux pour émettre moins de CO2. Et il faut beaucoup de métaux pour fabriquer un monde censément dématérialisé et recevoir ma fiche de paye dans le cloud. Et donc, en fait, on a pensé l'avenir, on a envisagé un avenir. Le marketing est venu évidemment nous inspirer. Je n'ai pas besoin de revenir sur l'imaginaire que peut véhiculer une publicité pour une voiture électrique à 19h59 sur une grande chaîne. Mais on n'a pas pensé au chemin qu'il faudrait parcourir pour pouvoir atteindre ce monde-là. Et l'accord de Paris de 2015, qui fait 29 pages, mentionne à aucun moment le mot « ressources ». Le mot métaux, le mot minerai, le mot mine, les mots matériaux ne sont pas, même pas une seule fois, mentionnés dans l'accord de Paris. Donc on a vu l'objectif, mais on n'a pas vu la manière, la façon d'atteindre l'objectif. C'est un immense angle mort de 180 degrés qui, en fait, a été complètement laissé de côté par les pays occidentaux. Et donc, progressivement, à mesure que va se passer ce que je vous explique, c'est-à-dire la montée en puissance technologique chinoise, mais également des restrictions chinoises aux exportations de ces matériaux. Pourquoi ? Parce qu'elle veut les garder pour elle-même, elle veut les garder pour ses propres industries, elle veut les garder pour fabriquer des composants. Elle va nous vendre le composant, elle ne veut pas nous vendre le métaux à 1 euro le kilo, elle va nous vendre la voiture électrique qui vaut 25 000 euros. C'est logique. La Chine, elle nous dit quoi ? Elle nous dit, vous les Français, vous ne vendez pas du raisin, vous vendez du vin. Et c'est ça qui fait que vous êtes des gens sympas, sexy et qu'on vous aime bien dans le monde. Vous vendez un bon Bordeaux, vous ne vendez pas un jus de raisin. Vous vendez un produit transformé. Et entre la vigne et la cave, il y a du savoir-faire. Mais nous, c'est pareil, en fait. On ne va pas vous vendre des terres rares qui sortent quasi brutes de la mine. On va vous vendre des voitures électriques avec les terres rares à l'intérieur. Et ils ont eu complètement raison. Mais donc, en fait, cette évolution chinoise, très structurée, très patiente, construite sur le temps long, très humble, qui s'est étalée sur 25-30 ans, hein, sur le temps d'une génération. Les Chinois ont pensé en fait à l'intérêt de la génération d'après. Leur génération, cette génération qui a construit cela, ils ont bossé comme des chiens. Ils se sont dégueulassés. Ils sont morts de cancer dans des conditions épouvantables dans les mines. Mais ils ont construit un avenir qui est infiniment plus radieux pour leurs enfants. Et ils avaient cela en tête. Je pense que ça nous fait réfléchir lorsqu'on voit la façon dont on mène aujourd'hui des campagnes électorales dans le monde occidental. Mais donc, cette patience et cette intelligence du temps long chinoise nous amène à une situation où, en fait, nous découvrons, à la faveur d'un embargo, d'une liste de métaux critiques qui est produite par l'Union européenne et qui est aussi aujourd'hui produite par les Américains, et produite par les Japonais, et produite par les Australiens, et produite par les Canadiens. Chacun produit ces listes de métaux critiques. Nous réalisons, en fait, que ce monde bas carbone est un monde aux métaux, que nous avons laissé un leadership partir à l'étranger et qu'en fait, si jamais les exportations cessent, il n'y a pas de solution concrète à court terme pour pouvoir échapper au goulot d'étranglement chinois. Donc c'est aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors il se passe qu'il y a un réveil occidental qui se produit, moi je dirais depuis environ 2, 3, 4 ans. Rappelez-vous le Covid, pendant 3 semaines, je crois, au mois de mars 2000, j'arrive jamais à me rappeler, je crois que c'était 2020, donc il y a 6 ans, mais à cette époque-là, on n'avait pas de masque. Et on attendait que quelqu'un nous livre des masques. Et c'était la Chine. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est dingue quand même de dépendre de la Chine pour des produits finis aussi importants. Ça fait mûrir en fait ça fait se modifier un logiciel qui était fondé sur des logiques de libre-échange, qui était pas forcément porté vers des logiques de souveraineté industrielle. À la même époque, vous avez peut-être que vous vous rappelez dans le canal de Suez un porte-conteneur qui se bloque en travers du canal de Suez, et pendant 11 jours, le canal de Suez est fermé et on fait le tour comme au bon vieux temps en passant par le Cap. Et puis également la guerre en Russie, enfin la guerre menée par la Russie en Ukraine, avec des coupures aux exportations de gaz russes à destination de l'Europe, fait prendre conscience qu'on ne peut pas dépendre de la Russie pour la fourniture d'un matériau aussi, enfin d'une matière première aussi stratégique. Et le monde change à une vitesse telle que je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui se passe quasiment au jour le jour, ou heure par heure, à coup de tweet, pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, les menaces qui pèsent sur la résilience de nos chaînes industrielles sont absolument colossales, parce que si jamais vous n'êtes pas d'accord avec Donald, eh bien, il est susceptible de vous couper le gaz, ou bien de cesser les exportations de tel ou de tel composant stratégique. Donc, la notion, tout d'un coup, de souveraineté stratégique s'invite dans le débat politique, commence à être décliné, notamment au niveau européen, par des réglementations extrêmement précises. L'une de ces réglementations, alors, il y a un rapport qui a été très médiatisé, qui s'appelle le rapport Varin, en 2022, du nom de Philippe Varin, l'industriel, et qui, en fait, est un rapport qui est remis à l'Élysée, posé sur la table de l'Élysée en 2022, et qui, en fait, globalement, explique ce que je viens de vous expliquer, et propose des solutions qui passent, en fait, par, je vais revenir sur ces solutions, mais qui passent par la relocalisation et la souveraineté industrielle et métallurgique européenne, qui est un prérequis indispensable pour pouvoir tenir tête aux Chinois. En 2024, est passé le Critical Raw Materials Act, donc le plan de la Commission européenne pour les métaux critiques, Critical Raw Materials. Souvent, on parle de métaux critiques, de CRM. Si un jour vous allez dans des conférences un peu spécialisées, vous aurez ce type d'acronyme. Ce CRM Act fixe 3 objectifs non contraignants à 2030 et qui sont très intéressants. Le premier, c'est qu'il faut qu'en 2030, l'Europe extrait de son sous-sol, donc l'Europe des 27, 10% de ce qu'elle consomme. Aujourd'hui, je crois qu'on est à, tout métaux confondu, 5-6. Il faut qu'en 2030, elle raffine, qu'elle transforme, 40% de ce qu'elle consomme. Et en 2030, il faut qu'elle réincorpore dans les produits finis, il faut que ces produits finis soient faits avec 25% de métaux issus du recyclage. Donc il faut qu'elle recycle ce qu'elle consomme, et il faut qu'elle reconsomme ce qu'elle a recyclé, qu'elle le réincorpore, avec un chiffre à 2030 de 25. 10, 40, 25. La Commission européenne dit cela, puis après, bon, elle va évoluer, elle va produire un plan, notamment un plan qui est tout récent, et qui en fait identifie 47 projets, de la mine jusqu'au recyclage, en passant par la séparation de certains matériaux, mais on parle de tous les matériaux de la table de Mendeleïev, hein, le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, les terres rares, les aimants, le recyclage, tous ces matériaux, sur toutes les étapes de la chaîne de valeur, eh bien, font l'objet, peuvent faire l'objet de plans de relance à l'échelle des 27 pays de l'Union européenne. Et donc, je vous invite à regarder la carte de ces 47 projets qui ont été sélectionnés par l'Union européenne avec une aide européenne, un soutien pour partie, évidemment, pour aider à la relance. Mais ça doit permettre, eh bien, d'atteindre cet objectif-là. Et donc, en fait, on se rend compte que l'Europe peut faire beaucoup de choses. Elle peut extraire, elle peut raffiner, elle a un savoir-faire et elle peut évidemment recycler tous ces matériaux. Ce qui est impressionnant, c'est l'accélération américaine sur le sujet en ce moment. Les Européens se réveillent parce qu'ils ont une urgence, c'est la transition énergétique. Les Américains se réveillent parce qu'ils ont une urgence, c'est l'IA. Il y a vraiment, on voit bien, la même réponse, mais qui obéit à deux objectifs différents. Les Américains sont bien moins soucieux que nous du réchauffement climatique, mais ils ont bien conscience que l'IA est très consommatrice, fortement consommatrice de ces métaux. Et donc, elle a besoin, les Américains ont besoin d'accélérer également dans la production de ces matériaux. Et donc, c'est tenu un sommet à Washington, il y a environ un mois de cela, sous l'égide de J.D. Vance, le vice-président américain, de Marco Rubio, le secrétaire d'État, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Et les Américains ont rassemblé à Washington une cinquantaine d'États venus du monde entier, notamment du Sud global. Et là, on s'est rendu compte que les Américains avaient beaucoup d'amis. Ils avaient envie de se faire beaucoup d'amis. Ils leur ont bien parlé. Ils ne les ont pas insultés. Ils ne les ont pas maltraités. Parce qu'en fait, les Américains ont le même problème que nous. Le temps minier aux États-Unis, tout à l'heure je disais 16 ans et demi, est encore plus long aux États-Unis, il est de 29 ans. C'est l'un des temps miniers les plus longs au monde, parce que quand vous voulez ouvrir une mine, ben vous avez une association écologique qui dit « bah non ». Donc du coup, en fait, il y a un procès, il faut l'autorisation administrative, il faut l'étude d'impact, il faut aller éventuellement devant la Cour suprême, tout ça c'est long. Et donc en fait, les Américains réfléchissent à la meilleure manière de contourner un monopole, notamment chinois, en allant chercher ces matériaux ailleurs dans le monde. Et c'est là qu'on réalise qu'en fait, ces matériaux peuvent être extraits partout. Et donc, les Indonésiens regorgent de nickel. Les Sud-Africains ont plein de palladium et de platinoïdes. Mais ils ont également des terres rares, les Sud-Africains. Les Brésiliens ont plein de terres rares. Les Chiliens ont du cuivre. Les Boliviens, les Argentins ont du lithium. Les Canadiens, ils ont tout. Les Mexicains ont du lithium. Arrive le Groenland. Le Groenland, aujourd'hui, il y a deux mines en opération, et en plus, il y a une mine de diamants. C'est aujourd'hui un pays qui ne produit pas, mais c'est un pays qui a un colossal potentiel. Il y aurait, au Groenland, 23% des réserves mondiales de terres rares. Ce qui, tout d'un coup, effectivement, rend ce pays intéressant. Donc, l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland peut s'expliquer en partie, seulement en partie, à l'aune de la richesse du sous-sol groenlandais. Mais je lui souhaite bon courage à M. Trump, parce que, en fait, il y a tout à faire au Groenland. Il y a peu de routes. Il y a une population qui n'est pas forcément formée à la mine. Donc c'est un savoir-faire qu'il va falloir importer. Il n'y a pas de centrale électrique en quantité suffisante pour pouvoir raffiner le minerai sur place. Il y a peu de ports. Il n'y a pas forcément toutes les infrastructures. Donc si les Américains veulent mettre la main sur le Groenland, ils mettent la main sur un potentiel. Mais le temps que ce potentiel devienne un gramme de minerai concrètement extrait du sol et qui rentre dans un F-35 ou une voiture électrique, il va se passer le temps qu'il a fallu aux Chinois pour faire la même chose. C'est-à-dire 10, 15, 20 ans, 25 ans. Je ne suis pas sûr que M. Trump ait conscience qu'en fait, il fait du temps long de cette manière-là. Je ne crois pas qu'il réalise qu'en fait, il s'engage dans un énorme... il est en train de devoir... S'il commence à vouloir mettre la main sur ce territoire et en extraire et en valoriser les ressources, c'est toute une chaîne de valeur jusqu'au produit fini qu'il faut relancer, et ça prend nécessairement plusieurs décennies, enfin au moins 15 ans, sinon 25 ans. Et je ne suis pas sûr qu'à la Maison-Blanche, on ait vraiment conscience de l'énormité de ces enjeux-là. Néanmoins, M. Zelensky a appâté M. Trump, c'était l'année dernière, en mars-avril, en lui disant « j'ai moi-même ces minerais, j'en ai plein, notamment du lithium ». J'ai peut-être des terres rares, j'ai du graphite. Et vous vous rappelez peut-être qu'il y a une grosse séquence médiatique au cours de laquelle, en fait, Trump, en gros, a dit « Je ferai la paix, mais à la condition d'avoir accès à tes métaux ». Et en fait, les Américains ont produit un protocole d'accord aux Ukrainiens qui était juste inacceptable pour les Ukrainiens, qu'ils ont refusé deux fois. Mais le troisième accord a été signé, un accord cadre, qui renvoie à des accords futurs, mais accord en vertu duquel, finalement, les Américains et les Ukrainiens tombent d'accord autour d'efforts conjoints à mener et de bénéfices communs dont ils profiteront pour extraire un certain nombre de matériaux du sous-sol ukrainien qui peuvent précisément servir l'industrie américaine. Et cette séquence a été très intéressante parce que, en fait, pendant cette séquence où j'ai dit merci, Monsieur Trump, en fait, ça me coûte de vous dire ça. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que ce soit Monsieur Trump qui, dans sa rage et sa fureur, pointe aux médias du monde entier, et donc à nous tous, et à moi, l'importance de ces matériaux, parce que sinon on n'y ferait pas attention. Et donc il force, quelque part, à pointer l'importance de ces matériaux. Et moi, j'ai eu, à titre personnel, l'occasion d'être invité dans des émissions de télévision ou dans des émissions de radio auxquelles je n'avais jamais eu accès jusque maintenant. Je parlais beaucoup de ce sujet-là depuis des années, mais je n'avais pas eu accès à C'est dans l'air sur France 5 et à C'est ce soir sur France 5. Et tout d'un coup, j'ai été invité dans ces émissions-là pour parler de terres rares. Et en fait, c'était des médias trop grand public pour le sujet trop spécifique ou censément trop spécifique dont je vous entretiens au Collège de France. Mais donc, c'est quelque part M. Trump qui aide à cette prise de conscience-là. Ça me coûte de vous le dire, mais néanmoins, c'est une réalité. Donc, les Américains accélèrent énormément. Quant aux Européens, ils ont lancé leur Critical Raw Materials Act et donc, on réfléchit à ouvrir des mines en Europe. Et donc là, se pose la question de savoir si on ouvre des mines en France. Énorme sujet. Donc il y a un groupe qui s'appelle Imerys, un groupe français, qui va probablement ouvrir l'année prochaine ou la suivante une mine de lithium dans l'Allier, ce qui provoque un énorme débat. Les gens disent, attendez, pourquoi est-ce que moi je dois payer sur le plan environnemental dans l'Allier, dans la diagonale du vide, pour qu'on puisse fabriquer des voitures électriques zéro émission qui roulent dans les beaux quartiers parisiens? C'est typiquement le genre de débat qui surgit. Donc ça pose d'immenses questions. Moi, j'ai envie de répondre, il va bien falloir que quelqu'un paye le coût de la transition énergétique. Jusque maintenant, on a laissé le boulot aux Chinois. Tout le monde était très content. Eux, peut-être moins. Peut-être qu'il va falloir qu'on rééquilibre la chose et qu'on assume la part d'ombre de cette transition verte. Et qu'on assume le sous-jacent matériel de la transition vers la dématérialisation. Donc, en tout cas, c'est un énorme débat qui se pose. Il y a évidemment une énorme diplomatie également, une diplomatie très intense, de plus en plus intense, au niveau européen et français qui se met en place. La France a un DIAMS, un délégué interministériel aux approvisionnements en métaux et minerais stratégiques, le DIAMS, M. Galzo, qui est en fait, qui représente le gouvernement et qui agit pour le compte du gouvernement dans la structuration d'une politique, véritable politique, d'intelligence minérale. Et ça passe notamment par la signature de Memorandum of Understanding, des accords cadres, avec aujourd'hui, je crois, une quinzaine de pays. La France a signé des accords cadres avec la Mongolie, avec le Chili, avec l'Australie. Ils ont signé récemment un accord cadre avec, je crois, le Brésil. L'objectif étant en fait de poser le cadre de relations entrepreneuriales facilitées entre les acteurs économiques du monde de la mine et de la métallurgie entre l'Europe et le reste du monde pour diversifier nos approvisionnements. Arrive évidemment la question de l'économie circulaire que j'ai évoquée, qui est en fait la véritable révolution qui se cache derrière la révolution verte. Et je pense qu'on n'évoque pas assez l'importance de la révolution circulaire dans ce contexte-là. Moi, je trouve que nous sommes un peu comme des automobilistes au passage à niveau. Vous savez, il y a un train qui vient de passer, mais un train en cache toujours un autre. La transition verte, c'est un peu cela. C'est le premier train, mais elle cache une autre révolution qui arrive, c'est la transition circulaire. On est en train de déplacer le problème. En fait, on déplace le problème. Peut-être même qu'on les additionne. Parce qu'en fait, notre consommation d'hydrocarbures reste extrêmement élevée. Et il est possible, comme le dit notamment le chercheur Jean-Baptiste Fresseau, dans un livre que je vous recommande qui s'appelle « Sans transition », en fait, on additionne finalement les besoins. Donc nous sommes dans une transition ou une addition énergétique. Mais, à supposer que nous soyons dans une transition, c'est-à-dire que si nous menons cette transition de façon extrêmement volontariste et ambitieuse, nous déplaçons une partie du problème puisque nous passons d'un monde de pétrole à un monde de gaz et de charbon, à un monde de terres rares, de cuivre, de lithium, de cobalt et autres, et un certain nombre de problématiques environnementales différentes, mais vont se retrouver associées à la mine, et donc on va se retrouver avec d'autres problèmes environnementaux, tout en ayant délaissé certaines problématiques associées au pétrole. On va se retrouver avec des nouvelles dépendances, on se retrouve avec des nouvelles dépendances, c'est plus la dépendance à l'Arabie Saoudite ou au gaz qatari, mais c'est la dépendance à la Chine notamment pour ses approvisionnements de métaux, ou à la Russie pour son titane et son palladium, ou à l'Afrique du Sud pour ses platinoïdes, ou à l'Indonésie pour son nickel et le cuivre chilien. Et puis c'est évidemment une nouvelle géopolitique des matières premières, puisque c'est un nouveau grand jeu qui se lance aujourd'hui, chaque pays, chaque bloc de pays, cherchant des approvisionnements alternatifs avec des nouveaux équilibres géopolitiques qui se trament dans le sillage de ces besoins en matériaux. Et donc en fait, ce monde basse matière, bas carbone, qui est un monde haute matière et haut métaux, est un monde en fait qui ne peut être durable et responsable et soutenable que s'il est bas carbone et bas métaux. Et donc en fait, aujourd'hui arrive toute la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir conserver le plus longtemps possible dans les boucles d'économie circulaire, enfin dans les boucles économiques, ces matériaux qui ont servi une fois, qui vont devoir sans cesse resservir. Et c'est là que se pose cette immense question potentiellement de la substitution, mais également du recyclage. Comment penser des technologies pour qu'elles soient plus facilement recyclées? Comment les collecter en fin de vie et pas les laisser partir dans les décharges électroniques que vous connaissez du Ghana ou de Chine? Comment penser des nouveaux modèles économiques qui permettent, qui par exemple se fondent sur non pas l'appropriation du bien, mais sa location, de façon à ce que l'intérêt du loueur soit de le louer le plus longtemps possible, plutôt que de le vendre pour le changer le plus rapidement possible, passer au l'iPhone suivant et que le client revienne racheter le prochain téléphone. Et puis ça boucle sur le recyclage, où il faut réfléchir aux nouveaux procédés technologiques du recyclage, mais peut-être accepter qu'un monde basse matière, bas carbone, un monde bas métaux et un monde bas métaux seront des mondes où tout coûtera forcément un peu plus cher. Une voiture électrique véritablement durable sera une voiture, si elle doit notamment intégrer des matériaux issus du recyclage ou des matériaux extraits dans des mines dans des conditions totalement responsables, c'est une voiture qui coûtera plus cher. Et donc ça nous interroge, nous, en tant que consommateurs, quel est le prix que nous sommes prêts à mettre, littéralement, pour pouvoir entrer en cohérence les annonces et ces avenirs absolument terriblement ambitieux et désirables avec la réalité de la course aux matériaux que cet avenir requiert et sans lesquels, de toute façon, il n'est pas d'avenir possible. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été assez pédagogique dans cette présentation. Et je reste avec le professeur Grison à votre disposition pour des questions.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.